Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous pour une nouvelle émission Patrice Calvel, architecte en chef des monuments historiques, qui nous avait parlé dans une précédente émission des découvertes et restaurations à la cathédrale de Chartres. Nous avons pu découvrir que l'époque passée, le Moyen-Âge, peignait tout à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Imaginez donc la cathédrale de Chartres rutilante de couleurs et de dorures. Nous allons parler aujourd'hui, après avoir découvert grâce à vous cher Patrice Calvel les peintures de la cathédrale, nous parlons d'une autre renaissance à la cathédrale de Chartres. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, vous savez que depuis l'an 2000, le trésor de la cathédrale est fermé. Mon cher confrère Paul Trouillou avait été obligé de fermer le trésor et de déposer les collections parce qu'il y avait d'importantes infiltrations, en particulier dans le mur est, et qui dégénéraient une humidité importante. Bon, tout a été mis en réserve, et depuis, on se posait des questions sur la réorganisation de ce trésor, parce que le problème, c'est que le trésor n'occupait que la chapelle Saint-Pierre. Ce n'est évidemment pas son site d'origine, vous vous en doutez bien. Elle avait été faite pour exposer les reliques de Saint-Pierre, et pas pour recevoir le trésor, et en dessous, il y avait la salle capitulaire des chanoines, qui est aujourd'hui ce que nous appelons le caveau des évêques. Bon, le problème du trésor tel qu'il était jusqu'en 2000, aménagé par Tarallon et Jean Ferret, c'est qu'on mélangeait à la fois l'orfèvrerie, la paramantique et le lapidaire. La paramantique, ce sont les tissus, le lapidaire, ce sont les pierres, et en particulier les merveilleuses dalles sculptées du Jubé. Donc tout ça étant parti, étant dispersé, bien à l'abri bien sûr, l'administration s'est posé la question de réorganiser ce trésor, et à ce sujet j'ai dû réaliser une étude préalable en 2005-2007 où j'ai montré qu'on pouvait parfaitement réinstaller, après avoir évoqué d'autres emplacements dans la cathédrale, qu'on pouvait parfaitement réinstaller le trésor de la cathédrale dans la chapelle Saint-Pierre, qui s'y prêtait admirablement grâce à ces deux niveaux, parce qu'on pouvait en bas mettre ce qui est lourd, c'est-à-dire le lapidaire, la sculpture, les quelques statues colonnes du portail royal qui sont actuellement dans la crypte. Enfin, on pouvait regrouper tout le lapidaire dans ce qu'on appelle aujourd'hui le caveau des évêques, qui possède entre autres d'admirables peintures du XIVe siècle qui étaient complètement masquées, qui sont toujours pour l'instant masquées, et par l'encrassement bien sûr, salle capitulaire qui en plus était entièrement revêtue de lambris qui ont disparu à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, quand on a installé le caveau des évêques, et mettant à nu le magnifique appareil de Pierre de Berchère, malheureusement entièrement rejointoyé au ciment. Et puis, à l'étage, dans la chapelle elle-même, on pouvait installer des vitrines pour présenter d'une part l'orfèvrerie, d'autre part la paramantique. L'idée était d'installer l'idée que j'ai proposée à l'administration était d'installer des vitrines courbes adossées au mur, de façon à ce qu'on ait toujours la vision des colonnes adossées des parois, qui soit toujours visible du haut en bas, c'est-à-dire du sol jusqu'au départ des voûtes. Et puis l'autre idée, c'était de reconstituer la tribune sur laquelle devaient être normalement installées les reliques de Saint-Pierre, qui semble n'avoir jamais été construite. Dans cette chapelle, on avait de part et d'autre de l'extrémité du chœur, on a deux portes qui flottent en l'air. Et on se demandait ce que c'était. En fait, c'était les accès à cette tribune. Et cette tribune, vous savez que la chapelle Saint-Pierre a été réalisée peu de temps avant le début de la guerre de Cent Ans. Et on ne sait pas encore si la tribune n'a tout simplement pas été réalisée parce que le malheur des temps ne l'a pas permis, ou si elle a été vandalisée dès l'époque, puisqu'on sait qu'au début de la guerre de Cent Ans, il y a eu quand même quelques problèmes à Chartres. Donc l'autre partie du projet était de créer en quelque sorte cette tribune et d'installer dessous des vitrines abriter de la lumière directe pour présenter dedans tous les tissus précieux et pour poser au-dessus des chapiers qui permettent de stocker à plat la paramantique, puisque vous savez que des tissus anciens, on ne doit pas les laisser en permanence sur des mannequins. Ils doivent être normalement déposés idéalement tous les 3 mois, globalement tous les 6 mois, et mis à l'abri un temps équivalent et remplacés par d'autres. Donc ce projet a eu l'heur de plaire à l'Inspection Générale des Monuments Historiques, qui m'a simplement demandé mais comment gérer l'accessibilité handicapée. Or, il y a une façon très simple de la gérer que j'aurais immédiatement montré, c'est qu'on utilise une des deux tours, et l'ancienne tour de la prison épiscopale qui a été complètement ravagée au XIXe siècle et qui a perdu une de ses voûtes intermédiaires et dans laquelle on peut installer un monde personne sans aucun problème. Donc on a étudié tout un circuit, aussi bien pour les personnes valides qui monteront par l'escalier normal, qui descendront et qui remonteront ensuite pour ressortir dans le déambulatoire de la cathédrale, que pour les personnes à mobilité réduite qui, elles, rentreront par une grille à l'extérieur du chevet, pourront accéder aux deux niveaux grâce à cet escalier et repartir par en bas. Donc, si vous voulez, on a géré complètement le problème. Et donc, le projet a été réalisé, le dossier de consultation d'entreprise a été réalisé cette année. Il a été remis à l'administration, je ne sais plus, au mois d'avril ou au mois de mai. Et l'appel d'offres, à l'heure qu'il est en cours. Donc, ces travaux doivent normalement commencer en 2012. Et vous aurez donc le trésor reconstitué avec la présentation de tous les vestiges ou des plus beaux vestiges du jubé en bas, dans ce que je persiste maintenant à appeler quand même la salle capitulaire, car la salle capitulaire l'emporte quand même d'une certaine façon sur le caveau des évêques qui est en dessous, qui a été creusé en dessous au début du XXe siècle, mais qui reste parfaitement accessible, qui garde sa fonctionnalité. Et dans cette salle capitulaire, on restaurera aussi les peintures murales, les quatre grands panneaux de peinture murale qui sont encore un des trésors inconnus actuellement de Chartres. Et puis à l'étage, donc la paramantique et tous les objets d'orfèvrerie situés chacun dans une vitrine par époque, avec la plus proche de la descente vers le chœur liturgique, la vitrine avec l'ensemble de Gucci qui est immédiatement accessible pour les cérémonies.
Du coup, vous rendriez accessible aussi la chapelle Saint-Pierre où on a des chefs-d'œuvre du vitrail de la Renaissance.
Alors oui, bien sûr, les vitraux seront restaurés à la même occasion puisque le projet qui a été fait est extérieur et intérieur. C'est-à-dire que avant d'aménager l'intérieur du trésor et de nettoyer les murs, de refaire les joints dans la salle capitulaire et tout ça, il faut au moins être sûr que c'est parfaitement étanche à l'extérieur et on restaure aussi les vitraux, bien sûr.
Qui ont été nettoyés.
Oui, ils ont déjà été nettoyés dans les années 60, mais ils n'ont pas été restaurés au sens où ce sont des vitraux plus récents, que les plans de casse perturbent beaucoup. Et là, la question est de supprimer vraiment beaucoup de plans de casse, ce qu'on ne fait pas systématiquement au XIIIe siècle, pour les vitraux du XIIIe siècle.
Vous êtes à Radio Grand Ciel avec Patrice Calvel qui nous a parlé du trésor de la cathédrale de Chartres et de sa renaissance, puisque grâce à Patrice Calvel, nous allons pouvoir accéder à la chapelle Saint-Pia qui se trouve derrière la cathédrale au chevet oriental. Et nous aurons, grâce à ce projet de mise en valeur du trésor de la cathédrale, également accès à la salle capitulaire. Vous aviez parlé juste avant la petite pause musicale des plans de casse. Veuillez expliquer à nos auditeurs.
Oui, en fait, les plans de casse, bon, vous savez qu'un vitrail, c'est fait avec du verre coloré qui est enchâssé dans des petits profils de plomb qui le maintiennent. Et en fait, ce qu'on appelle les plans de casse, ce sont les petits éléments de plomb qui se rajoutent à la conduite de plomb initiale au fur et à mesure que les vitraux sont cassé, qui a une fracture, une cassure, on armait dans le temps. Aujourd'hui, évidemment, on dispose de colles extrêmement performantes, mais depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on ne disposait pas de ces produits chimiques et on consolidait uniquement en reprenant les cassures, les fractures avec du plomb. Selon la même technique, le vitrail est pratiquement une des rares techniques qui se restaure avec ses propres matériaux. Donc, si vous voulez, quand il y avait une cassure dans le plomb, on la grugeait légèrement de chaque côté et on remettait un petit profilé de plomb qui était soudé à ses extrémités sur les plans d'origine. C'est ce qu'on appelle les plans de casse.
Et cela explique un peu cet extrême morcellement
de certaines
verrières.
Alors ça explique un petit peu cet extrême morcellement des verrières. On est très discret dans la suppression des plans de casse pour les vitraux très anciens, surtout les vitraux du XIIIe siècle ou du XIIe siècle, comme à la façade occidentale. On n'en enlève pas trop parce que il y a eu de telles transformations à travers les siècles, de telles quantités de restauration, parce que dans le temps, les vitraux étaient restaurés très régulièrement. Donc, en particulier à la façade occidentale, les panneaux, qui sont déjà très grands, ils font près d'un mètre carré chacun, sont très alourdis, pratiquement doublés de poids, rien qu'à cause de l'insertion des plans de casse pour rattraper toutes les cassures qui se sont faites au cours des temps. Et dans les vitraux plus récents, et en particulier les vitraux du XVIe siècle qui s'apparentent beaucoup plus à de la peinture, là, on essaye pratiquement de supprimer la totalité des plans de casse pour retrouver la cohérence, si vous voulez, d'un tableau.
Parce que là, les plans de casse sont vraiment gênants.
Et là, les plans de casse sont vraiment gênants. Et là, on revient entièrement, quand on le peut, s'il n'y a pas eu de pièces de verre neuves insérées, auquel cas, on fait le raccord entre la partie ancienne et la partie nouvelle de la pièce de verre peinte par du Tiffany, c'est-à-dire des bandes de cuivre collantes qui sont beaucoup plus fines et qui ne se voient pas à grande distance.
Qui sont soudés entre elles soudure.
Voilà.
Rappelons peut-être aux auditeurs qu'ils peuvent voir plus de 50 panneaux d'origine de la Renaissance ici à Chartres, dans le musée du Vitrail, Centre Athanase Vitrail à Chartres. Les panneaux sont de la propriété de la ville de Chartres et ces panneaux proviennent des églises.
Oui, ils proviennent de diverses églises qui ont disparu à la Révolution et ils avaient été remontés de façon un petit peu arbitraire dans le triforium de Saint-Pierre. Et il y a 3 ans, mais ça a duré très longtemps, on les a déposés et j'ai fait reconstituer entièrement le décor en grisaille, en vitraux à grisaille du Triforium de Chartres, très aidé en cela par le travail remarquable qui avait été fait au Centre international du vitrail par un des chercheurs associés.
Je pense que c'était Françoise Parrot à l'époque peut-être.
Oui, il y avait eu
les
analyses de Françoise Parrot, entre autres.
Alors, ces vitraux montrent donc que le vitrail à la Renaissance, c'est une vraie peinture. Nous dévions un peu sur le vitrail, alors que nous devions parler du trésor qui, grâce à vous, sera mis en valeur dans la chapelle Saint-Pia. Comment est-ce qu'on accédait aux deux tours qui sont par
les deux petites tourelles?
Oui.
En fait, elles ont leurs propres entrées à chaque niveau.
À chaque niveau de l'intérieur de la cathédrale,
de l'intérieur de la chapelle Saint-Pia.
Oui, c'est cela. Et l'une était donc la prison et l'autre était l'ancienne bibliothèque.
Probablement, oui. Mais elles ont encore deux portes d'origine. Il y a encore deux portes d'origine en bois travaillées, très très belles. Donc ces portes dissimuleront. Alors dans celle du nord, dans la tourelle du nord, On va représenter des, il y aura des vitrines circulaires pour qu'on puisse tourner autour et au sommet, au niveau de la, au niveau de la tribune, il y aura un chapier, un chapieron qui sera inscrit dans la tour nord de façon à ranger justement les tissus précieux. Et de l'autre côté, l'autre tour sera entièrement occupée par le monde personne, qui doit quand même être assez vaste, puisqu'il faut qu'une personne handicapée puisse circuler avec un véhicule spécialisé sans aucune difficulté.
Donc le trésor sera exposé dans l'ancienne prison, si j'ai bien compris, l'ancienne prison de l'épiscopale, ou c'est l'inverse?
La tourelle qu'on appelle la tourelle des prisons ne contient que le monde personne qui permet d'aller, aussi bien pour les personnes valides que pour les personnes handicapées, de joindre le rez-de-chaussée et l'étage. Puisque une des idées majeures, c'est que le trésor soit toujours accessible par la cathédrale. Donc c'était un des points forts. Malheureusement, les personnes qui n'ont pas la mobilité d'emprunter l'escalier du XIVe siècle qui part du déambulatoire sont obligées de venir par l'extérieur et de repartir par l'extérieur, mais au moins elles pourront accéder à la totalité des deux salles du trésor. Et les personnes valides, elles monteront par l'escalier, elles descendront au rez-de-chaussée par l'ascenseur, remonteront par l'ascenseur et redescendront par l'escalier, reviendront dans la cathédrale. Un trésor de cathédrale est intimement lié à la cathédrale. Ça a d'ailleurs été le cas du trésor de la cathédrale d'Albi que j'ai redécouvert en 1975 et qui fonctionne
Rappelons que vous êtes également responsable de la cathédrale d'Albi.
Oui.
En Albigeois. Qui n'était pas toujours en bon terme avec les donateurs de la cathédrale, dont Simon de Montfort.
Voilà.
Comme vous aurez mené en 2012 avec brio les restaurations de la cathédrale de Chartres, est-ce qu'on a trouvé dans cette l'une des tours de la chapelle Saint-Pierre, en grattant ou quand on va gratter, est-ce qu'on trouvera des graffitis des anciens prisonniers?
Ça a été trop
pensé. Il y avait des chantres qui l'ont emprisonné.
On ne sait pas encore. Pour l'instant, il y a des enduits du 19e siècle. Il y a beaucoup d'encrassements. Peut-être qu'on trouvera quelque chose. Peut-être que... il faudra aussi s'assurer que ce n'est pas une simple légende et que ça a été véritablement un in passé.
Je crois qu'on avait tout prévu à l'époque.
Oui, tout ça a été prévu.
Ceux qui chantaient pouvaient parfois aussi déborder un peu du cadre imposé par le clergé.
Voilà, donc justement, le nettoyage, la remise en état de cette partie, de cette tourelle, dont l'intérieur sera visible au fur et à mesure qu'on montera, puisque le monde personne sera vitré, ça permettra de voir si on doit découvrir des choses, elles seront visibles en empruntant le monde personne.
Les enfants de chœur des anciennes maîtrises dans la cathédrale ont chanté les fidèles qui assistaient aux cérémonies dans la cathédrale de Chartres, qui subit actuellement beaucoup de restaurations pour le plus grand bonheur de ceux qui vont découvrir la fin de ces travaux. Et j'ai dans le studio de Radio Grand Ciel avec moi quelqu'un qui sait mieux que quiconque ce qui va se passer dans le futur. Patrice Calvel qui nous a parlé du trésor, de la renaissance du trésor de la cathédrale de Chartres. Et pour terminer cette belle émission, est-ce que vous pouvez déjà nous dire à quel moment on va retirer des échafaudages et quelle sera la suite des travaux.
Oui, parce que bon, et vous voyez la cathédrale est à l'intérieur absolument couverte d'échafaudages. Bon, à la fin de cette année, la façade occidentale va être totalement dégagée, mais il faut savoir que l'ambition de mon administration est d'avoir achevé totalement la restauration intérieure de la cathédrale en 2015. Donc,
rappelons que nous serons en 2011-2012 en parlant de voilà. Ces travaux et de la fin.
Donc, les travaux actuellement qui bloquent complètement le déambulatoire autour du Grand Cœur vont durer jusqu'à en gros fin du mois de juin de l'année prochaine, 2012. Donc, le cœur sera entièrement restauré pour cette époque-là. Mais dès qu'il sera terminé, on lancera des échafaudages dans la nef, des échafaudages dans les bras de transept pour poursuivre la restauration des grandes verrières, des verrières hautes dont je viens de terminer l'ensemble des études, avec entre autres un projet réalisé au titre du mécénat de compétences par un atelier de maître verrier allemand de Paderborn, l'atelier Peters. Et puis, ces travaux vont se poursuivre aussi grâce au mécénat de nos deux associations. Et puis, en parallèle, on va restaurer donc les voûtes et les parois de la nef et ultérieurement du déambulatoire qui se fera en tout dernier lieu. Donc, vous voyez, il y aura encore des échafaudages dans la cathédrale jusqu'en 2015, mais sachant que les échafaudages à venir seront finalement beaucoup moins gênants pour la perception du monument que les ensembles actuels qui cachent complètement pour des raisons de...
Et qui obstruent l'accès.
Qui obstruent l'accès et puis qui masquent complètement qui ferment complètement le déambulatoire parce que ce sont des lieux un petit peu serré, un petit peu resserré, où on a été obligé d'installer de faire des installations extrêmement importantes qui rendent le monument invisible. Dans la nef, ce sera beaucoup plus simple. Dans la nef et la croisée de transept et déambulatoire, ce sera beaucoup plus simple parce que les échafaudages monteront latéralement le long des colonnes, mais le centre de la nef sera toujours visible, donc les gens qui rentreront à partir de 2012 dans la nef par le portail royal, auront quand même la perception sur la totalité du chœur et en avançant un peu, le verront complètement dans sa splendeur, il faut le dire, parce qu'il aura retrouvé toute sa polychromie. Le trésor, lui, c'est un chantier qui est nécessairement plus confidentiel puisqu'il n'intéresse que la chapelle Saint-Pierre. Il va se dérouler... je l'espère, en parallèle à l'extérieur et à l'intérieur, mais il ne gênera en rien la vision de la cathédrale. Il devrait se dérouler sur 2012-2013, en gros. Hein. Et puis là, on en aura fini, sauf que il restera encore la restauration des portails extérieurs sud. Voilà. Donc, vous savez comment on a restauré les portails nord, Guinico et moi-même, en 97, 98, 99. Il faut à peu près 9 mois pour restaurer un portail sur 3. Donc, vous voyez, il faut 27 mois pour faire les 3 portails. Et ça, c'est programmé après 2015.
Un laps de temps voilà. Extraordinaire, donc, mais il faut prendre le temps pour dépoussiérer les statues dans l'espoir de trouver peut-être aussi côté sud des traces de polychromie.
Ah ben là, les traces de polychromie, je les ai déjà trouvées puisque j'ai fait l'étude des portails sud.
Parlez-nous des traces de polychromie
voilà,
sur les statues
j'ai
du
fait
portail
l'étude
sud.
Des portails sud, donc oui, il y a très longtemps maintenant, aux alentours de 2000-2002, et j'avais associé des restaurateurs, des chercheurs, pour faire des sondages un petit peu significatifs, parce qu'on avait découvert un petit peu de polychromie avec Guinico au nord, mais vraiment des traces extrêmement faibles. Les plus marquantes sont celles des carnations et des visages du jugement de Salomon sur l'un des portails, où on voit très bien, on a la preuve irréfutable que c'était peint. Mais on le savait de reste, hein, puisque toutes ces portails de cathédrale étaient peints. Et comme j'étais persuadé qu'il y en avait aussi au sud, j'avais fait faire des investigations. Donc dans le tympan du portail central, on a trouvé, alors sur des surfaces infimes, plus de 300 points de polychromie conservés sous la crasse. La polychromie est toujours très altérée, très effacée, très délavée. Mais il y en a toujours suffisamment pour se rendre compte de ce que c'était et même pour s'apercevoir qu'il y a eu plusieurs couches superposées, comme à Bourges.
Revenons à notre auteur Gilbert, oui. Que vous connaissez par cœur. Il dit bien que le Christ du trumeau du portail sud, il était doré. Le nimbe était doré et apparemment, il voyait encore au début du XIXe siècle les traces de peinture rouge et pourpre. sur la statue. Donc cet encrassement, il s'est fait sur un laps de temps assez restreint.
L'encrassement s'est beaucoup fait à partir du 19e siècle, quand l'enrichissement de la société et la stabilité économique du pays font qu'on a beaucoup mieux chauffé les maisons, donc beaucoup de chauffage au charbon, puis ensuite beaucoup de chauffage au fioul, et puis ensuite évidemment la pollution automobile. Tout ça a accentué de façon exponentielle l'encrassement non seulement de notre cathédrale, mais de tous les monuments de France et de Navarre. Donc si vous voulez, il est certain qu'autant de la... On sait par exemple qu'au XVIIIe siècle, qui a été la grande période de badigeonnement de tous les décors du Moyen-Âge avaient très bien tenu, étaient parfaitement visibles depuis le Moyen-Âge. Et on a commencé vraiment à cacher la polychromie, on a un peu commencé au XVIe siècle, mais le XVIe siècle était lui-même encore très porté sur la couleur. Quand on badigeonnait des statues, c'était pour les peindre en blanc, pour donner l'illusion que c'était des statues antiques, parce qu'on venait de découvrir l'Antiquité, que les statues antiques avaient perdu toute leur polychromie, donc on faisait du blanc, c'était plus noble. Mais après, c'est l'encrassement qui a tout perturbé, et puis aussi quelquefois le grattage. Et à la cathédrale de Chartres, on sait qu'au XIXe siècle, un de mes prédécesseurs de l'époque raconte qu'il débadigeonne l'intérieur de la cathédrale. En fait, ce qu'il appelle débadigeonner, il gratte. Il gratte et il a détruit des décors complets, en particulier sur les voûtes de la croisée de transept, où il a purement et simplement fait gratter complètement la couche d'enduit, qui était la couche d'enduit du XIIIe siècle, peint à coupe de pierre, à faux joint. Il l'a fait gratter pour faire des joints au ciment entre les pierres. L'enduit donc va être reconstitué dans une des tranches futures avant 2015. Et vous voyez que il y a des évolutions liées à des états aussi de la mentalité collective au fur et à mesure du temps.
Donc l'horizon de la fin des travaux, comme vous l'aviez rappelé, c'est 2015.
Pour l'intérieur, c'est 2015. Hein, pour l'intérieur, c'est 2015. Et pour les portails sud, ce sera normalement au-delà. Sauf à ce que les conditions économiques permettent de le lancer plus tôt. Mais ça, il n'appartient à personne pour l'instant de l'évoquer.
Donc le financement va être assuré, pensez-vous, pendant les 4 prochaines années ?
Oui,
grâce
aussi
à l'action des deux associations.
Aussi, elles ont un rôle majeur, faut-il le rappeler. Oui. Mais il y a aussi une volonté très nette du ministère de la Culture de venir enfin à bout de ce monument insigne qui avait été, non pas négligé, mais que les conditions des temps avaient imposé de reporter un petit peu les travaux.
Patrice Calvel, architecte en chef des monuments historiques, responsable de la cathédrale de Chartres, de sa restauration, de sa renaissance. Prenez, chers auditeurs de Radio Grand Ciel, ces échafaudages multiples comme une étape incontournable de retrouver la beauté de ce monument gothique. Et en attendant, si vous avez l'occasion d'assister aux journées d'études organisées par le Centre International Vitrail en octobre 22 et 23 octobre 2011, vous allez pouvoir écouter à nouveau Patrice Calvel et d'autres chercheurs qui ont fait des découvertes extraordinaires à la cathédrale de Chartres. Je vous dis au revoir et à dans 15 jours.